Radio G 101.5 FM.
Le jour où on m'a dit il va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait.
Bonsoir et bienvenue pour cette émission un peu particulière d'Imaginaire, puisque pour cette première, nous avons une tête bucéphale à l'animation, Bess et oui. Julien.
Bonsoir. Romain nous a laissé les commandes ce soir.
Et comment ils sont vrais quand même, hein?
Et oui, donc c'est nous qui sommes aux commandes de cette émission un peu particulière avec Romuald.
Salut.
Jean-Hugues.
Bonjour.
Et Luc pour superviser un peu tout ça, pour voir qu'on ne fait pas de bêtises.
Mais dans le placard, il n'y a pas de micro.
Et on n'a pas envie d'en faire. Alors nous ferons dans cette émission appel à Jean-Hugues pour sa chronique bi-hebdomadaire.
Annuelle.
Oui.
Nous aurons aussi une interview que nous diffuserons tout à l'heure. Et plein d'autres choses qu'on va découvrir, parce que là, il faut être tolérant avec nous. C'est la première qu'on fait comme ça. Alors, Jean-Hugues, ça va être à toi de prendre la parole après ton générique.
Je suis prêt.
Félicitations, Reggie, c'est un calamar.
Chers amis auditeurs, chers amis chroniqueurs, chers amis animateurs, chers amis techniciens, bonjour. Vous le remarquerez, je continue à faire preuve d'une amabilité confondante, comme j'avais annoncé lors de l'émission de janvier. Et je vois bien que certains d'entre vous ici sont stupéfaits, rassurez-vous, ça ne devrait pas durer. J'ai regardé à la télé quelques trucs dignes d'intérêt que je vais me faire une joie de démonter devant vous. Alors, je suis dans la 8e et heureusement dernière saison du Trône de Fer, ou comme disent les gens branchés des réseaux sociaux, GOT, pour Game of Thrones. Si, vous savez bien, c'est le truc dont le scénario est une sorte de jeu de chaise musicale. Bon, je vais pas y spoiler, hein, rassurez-vous. C'est de la fantasy calme. Les sorciers sont rares, les créatures fantastiques aussi. Ce sont essentiellement des histoires de grosses brutes au raisonnement primaire qui s'entretuent gaiement pour un très inconfortable fauteuil. Il y a quelques personnages parmi les innombrables tartuffes parsemant la série qui sortent du lot cependant, mais rassurez-vous, ce sont essentiellement des femmes, ou des nains, ou des obèses, ou des eunuques. Je cherche encore l'intérêt de la première saison, à part voir Boromir se faire buter une fois de plus. Des scènes de cul sans intérêt à n'en plus finir. Allez plutôt sur Pornhub, c'est plus sympa. Et surtout, ne vous filmez pas. Heureusement, ça se calme dès la deuxième. Au bout de quelques saisons, on arrive à discerner un intérêt dans les quelques survivants qui pataugent dans la semoule scénaristique du truc. Entre autres, un bibliothèque très sympa, mais forcément gros. C'est normal, les types qui fréquentent des livres sont forcément des obèses chez HBO. Celui-ci dit quelques trucs confondants de vérité, genre « La mort, c'est oublier et être oublié. » Ok, c'est pas Nietzsche non plus, mais avouez que c'est pas mal pour une série américaine. Le penseur est donc gros, et j'en sais quelque chose. Les minces dans la série sont aussi... sont essentiellement des guerriers à peine pubères à qui il arrive les pires vilaines. Et les jeunes, on a juste envie de les écraser à coups de botte tout de suite pour qu'ils aient un souvenir de leur vie sans trop de violence. Bon, et la saison 8. J'en suis au début et je dois dire que je suis agréablement surpris. C'est presque plus cohérent qu'à l'habitude, mais de vils spoilers m'ont expliqué qu'à la fin c'était du n'importe nawak. Du coup, je ralentis la vision, plein d'appréhension. Je vous dirai ce que j'en pense. Avec ma charmante, nous avons aussi regardé The Witcher. C'est un truc issu d'une saga de, attention, je suis presque aussi bon pour les phonèmes polonais que Pierre-Marie pour les anglais, Andrzej Sapkowski.
Bravo.
Merci.
Il a fait de la vodka, non ?
J'espère. Traduit en France par Le Sorceleur. Alors ça, c'est de la high fantasy de haut vol. Il y a des tas de monstres et du puissant sorcier à chaque coin de rue. En plus, c'est assez simple, on peut diviser socialement la population humaine de ce monde en trois classes. La première sont les soldats et autres militaires apparentés, qui servent ni plus ni moins que de chair à canon et qui sont presque aussi efficaces qu'un Stormtrooper dans Star Wars. Il y a les nobles et les magiciens qui forment la seconde classe. La troisième est composée du reste, des humains pauvres, sales et débiles qui ne comprennent rien à ce qui se passe et qui se contentent de grogner contre tout en s'échappant au moins de danger. C'est simple, on dirait une vision éclairée de la France par Macron. Gérald de Rive est sorceleur. Un type de 2 mètres, musclé comme Chuck Norris en beaucoup plus grand, avec une tronche et une coupe à la Elric. Et il a une épée longue comme une queue sur la ligne 13 du métro parisien, un jour de grève.
J'ai eu peur.
Oui, je sais que c'est à la mode, mais non. Quand il est un peu énervé, sa tronche change un peu, révélant son état de mutant. De temps à autre, il balance des petits sorts, généralement pour repousser des attaquants. C'est un combattant digne de Conan et c'est un mec, comment dire, gentil ? Non, ça va pas. Capable de compassion, voilà, plutôt. Un sorceleur, c'est un monsieur qui tue des monstres contre de l'argent. Alors, il y a de moins en moins de sorceleurs, car se battre sous l'eau contre une araignée géante aquatique, ben, c'est dangereux. Il y avait un centre de formation de sorceleurs, mais pas de bol, c'est fermé. Non, on ne sait pas bien pourquoi. Il y a bien une explication du genre, c'est fermé depuis la malédiction de Lamrot, ou équivalent, mais rien de plus. Du coup, il y en a de moins en moins. La population de la troisième classe sociale, vous savez, les pauvres qui puent, n'aime pas les sorceleurs. J'ai pas encore bien compris pourquoi. Les nobles se foutent carrément de leur gueule, et les soldats et les sorciers restent prudemment à l'écart. Bref, c'est pas rose tout ça. Ceci dit, le truc fonctionne à peu près. Bon, le barde farceur qui accompagne notre héros, disons-le bien fort, c'était pas obligé. Les épisodes durent une heure, du coup avec quelques longueurs. Pour les obsédés sexuels que vous êtes, on y voit quelques poitrines féminines bien faites, et le sorceleur à poil, ce qui a l'air de ravir la population des réseaux sociaux, et les combats sont très sanglants. On ne va pas dire que c'est le truc de l'année, mais bon, ça se regarde, on ne va pas bouder notre plaisir. Je rappelle que le premier truc de fantasy correct que j'ai vu, c'était Conan de Milius. Avant, c'était Tirer la fronde. Alors, on ne va pas faire les difficiles. J'ai même trouvé sympa l'épée de vérité, c'est dire. Ils vont nous faire la saison 2 de The Witcher pour 2021. J'espère qu'ils n'oublieront pas de buter le barde. C'est sur Netflix. Je regarde aussi une vieillerie, comme dirait mon ado de fille. Bah oui, ça date du milieu des années 2000. Et j'en suis à la sixième dernière saison. C'est Lost. Lost, ça veut dire perdu en anglais. Le titre est magnifiquement trouvé. D'ailleurs, des fois, pendant un épisode, on se regarde avec ma charmante en se disant « Mais je suis complètement lost !» Et on éclate d'un rire hystérique. Bon alors, c'est quoi ce truc ? Un avion allant de Sydney, je ne sais plus, aux États-Unis, se crache sur une île comme un gilet jaune sur un ton fin. Une belle île, hein ? Tropicale, jungle, plage de sable fin, et grosse avec ça, énorme même. Mais il y a des trucs étranges, mais vraiment étranges. Bon, ok, je spoil pas. La quinzaine de personnages que nous allons suivre sur la quarantaine de survivants ont un passé. Moins intéressant que le mien, mais caractéristique quand même. Et chaque épisode de la série s'attarde sur un ou deux des personnages et son passé au travers de flashbacks aisément identifiables dans les premières saisons. Quand il prend un taxi, par exemple. Car il n'y en a pas sur l'île. Non, mais je t'explique. Les moteurs de chaque personnage sont différents, mais il y a de nombreuses coïncidences qui font qu'ils se sont tous croisés avant le crash. Alors c'est bien sympa tout ça, mais dans la quatrième saison, quand les flashbacks s'enchaînent sur des faits qui semblent de la même temporalité, alors que non, on est complètement
lost,
c'est ça. Par exemple, dans la quatrième saison, on ne comprend pas pourquoi, comment dans la situation dans laquelle se trouvent les personnages dans les 10 premiers épisodes a pu arriver, mais ils sont malins. Ils ne nous le disent pas avant la fin. Bon, vous l'avez compris, ce sont essentiellement les personnages qui suscitent un intérêt dont l'île elle-même, qui au fur et à mesure des épisodes, devient le personnage principal. Bon, je vous dis quand je finis, mais bien que mitigé, ma charmante et moi, on est quand même au milieu de la sixième saison, c'est ainsi. Et puis j'ai regardé des films, dont je ne vous parlerai pas. Non, j'ai arrêté les Fast and Furious, hein. Je récupère encore des précédents. Et parmi toutes les daubes, j'ai quand même relevé High Boy. Alors soyons clairs, moi j'aime bien Maisie Williams. Mais si, c'est elle qui interprète le personnage d'Arya Stark dans Gant. Son destin et sa bouille me font quelque chose. Bref, dans le film, elle interprète une jeune femme au prénom de Lucy qui, dès le début du film, se fait violer chez elle par une bande de racailles. Au moment même où Tom, qu'il aime vraiment beaucoup, arrivait. Prenant son courage à deux mains et son téléphone de l'autre, Tom s'enfuit, rattrapé par une balle qui lui enfonce son téléphone dans la tête. Oui, des bouts de téléphone. Comar éveille, ne voilà-t-il pas que notre Tom a des pouvoirs liés aux morceaux placés dans son cerveau ? C'est con, hein, comme pitch. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se venger, oui, parce que la pauvre Maisie, les mecs, elle en a ras-le-bol. S'ensuit une aventure un peu boubourse, mais assez palpitante, de la jeune racaille gentille qui sauve son ami de la bande de racailles méchantes, et il est content parce qu'à la fin, elle veut bien qu'il l'embrasse. La dernière fois que j'ai croisé l'ami Romain, notre animateur historique de l'émission Imaginaire, il m'a gentiment prêté deux de ses cadeaux de Noël qui prouvent qu'il est bien entouré de gens qu'il aime, et mieux, qui connaissent ses goûts. Maman m'aimait beaucoup, ce qui ne l'a pas empêché de m'offrir les œuvres intégrales de Tacite à la Pléiade. Le premier est une bande dessinée parue chez Dargo une année sans Cthulhu, de Smolderens et Cléris. Je me suis donc lancé. Après une introduction pour le moins énigmatique du scénariste, l'ouvrage commence par une partie de jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu, un peu étonnante pour le gardien des arcanes, c'est le nom du meneur de jeu que je suis. Ce sont des adolescents qui jouent et une petite bêtise va avoir de grosses conséquences entraînant la punition ultime pour un joueur, une année sans Cthulhu. Nos lycéens, dont une jeune fille bien étrange, sont perturbés par l'arrivée d'une nouvelle au comportement trop cool. Dans le même temps, Samuel, l'un de nos héros, assiste impuissant à la séparation de ses parents. Il se réfugie donc chez des amis et leurs parents d'origine indienne, qui sont les adorables de la bande dessinée. Pas de bol, c'est chez eux que va se dérouler un drame stupéfiant. Thierry Smolderens est un érudit des années 80 et joue avec subtilité et élégance avec les icônes geeks de la jeunesse de l'époque. Le jeu de rôle, les jeux de console et les débuts de l'informatique domestique. Le scénario est magnifiquement monté et organisé, basé sur un fait d'actualité de l'époque, et bien que flirtant lourdement avec le fantastique, il paraîtrait presque crédible. Dieu ancien, sorcière, jeunesse, coulitude, tous les repères de mes 20 ans sont là, splendidement orchestrés, je suis un peu plus sceptique quant aux réactions de ceux nés après les années 80. Concernant le dessin d'Alexandre Cléry, je rappelle que je ne suis qu'un amateur de bande dessinée, et son graphisme m'a un peu décontenancé, mais au bout de 3 pages, le jeu est fait, et il colle le scénario avec talent. Le second ouvrage que m'a prêté Romain est Conan de Simon Sanahujas au mouton électrique sur une magnifique couverture de l'indispensable Melchior Ascaride. Perso, je pensais que seul Patrice Luinet était officiellement autorisé à causer de Howard et en fait non. Alors en fait, c'est une monographie très bien réalisée, abondamment illustrée par des gens de talent comme les Américains Neil Adams, Frank Frazetta, Barry Smith, John Buscema, Boris Valero et Ken Kelly et une dizaine d'autres, ainsi que des Européens comme, je vous le donne quand même, Nicolet, Drouillet, Liberator et j'en passe. L'ouvrage, tout en restant très sérieux et documenté, sait aussi faire preuve d'humour, tout comme dans ses encarts sur les, je cite, incertitudes bibliographiques ou les suppositions sur certains personnages. Personnages comme par exemple Bélite, Totamon, Toutes mes cris, voire certains des clones comme Tongor de Lynn Carter ou Drus de David Gemmell. Le tout est suivi de chapitres sur Kull, une bio de l'heure, un chapitre sur les Celtes, Howard et Conan, un intitulé « Homme singe et serpent géant », un qui regroupe les résultats des recherches de courriers envoyés par l'auteur à ses fans, ça doit être du taf, une explication de texte sur Red Nails, ou les clous rouges en français, qui serait une forme d'autobiographie de l'auteur, et un dernier chapitre sur un voyage au Texas, sur les traces de Howard. Le format est plaisant et personnellement j'ai appris des choses. J'en profite avec mon habilité coutumière pour remercier les éditions Les Moutons Électriques et leur ouvrage monographique toujours parfaitement réalisé.
Eh bien, merci pour cette belle chronique, Jean-Luc, qui nous a permis, nous, de prendre nos marques un petit peu et de nous remémorer cet illustrateur, Jean Passe, que je ne connaissais pas. Ça va être autour de ta chronique.
Ouais, je vais lancer mon générique moi-même, toute seule, comme une grande, vous allez voir, ça va dépoter. Get away from her, you bitch! I know my value. Anyone else's opinion doesn't really matter. Mary Poppins, practically perfect in every way. Spoilers. Alors, l'année dernière, je vous disais premier festival, mais clairement pas le dernier. Bah, voyez-vous, j'y suis retournée. Je suis retournée où, me direz-vous? Eh bien, je vous parle du Festival international du film fantastique de Gérard May, dont c'était la 27e édition fin janvier. Alors, tout commence par contre avec un petit point météo, parce que c'est important. Et autant l'année dernière c'était la fête à la neige, autant cette année c'était la fête à la drache. Il a plu sa mère tout le week-end. Alors quand tu fais la queue une demi-heure dehors avant de voir ton film, crois-moi que tu le sens bien passer. Petite nouveauté aussi cette année, j'ai pu tester les 4 salles de cinéma où étaient projetés les films. L'année dernière, j'avais tout vu dans le même cinéma. Alors, il y a du très confortable, il y a du plus conceptuel pour ton dos et tes jambes. Hein. Mais quelle que soit la salle, l'ambiance était plutôt bonne. Ça se marre, ça applaudit, ça frissonne, ça fait burk. Bref, le public est là et bien là. Alors, j'ai pu voir 9 films sur 10 qui étaient en compétition et je vais vous présenter brièvement ces 9 films. Alors, le premier vu de cette année s'appelle Sea Fever. C'est un huis clos marin dans lequel on retrouve Connie Nielsen, par exemple. Alors, c'est l'histoire d'un chalutier qui fait une drôle de rencontre, à savoir une grosse bestiole fluorescente avec des tentacules super chelous. Ça flirte beaucoup avec The Thing, c'est vraiment pas mal, mais il lui manque un gros climax. La tension est là, mais peut-être un chouïa insuffisante. On a aussi vu Vivarium. Alors ça, c'est avec Jesse Eisenberg et Imogen Poots. Et ouais, il y a de la star dans les films fantastiques maintenant. Dans ce film-là, on suit un couple qui se fait piéger dans une maison de banlieue où ils vont devoir vivre malgré eux. Alors c'est très bien joué, c'est même réalisé avec une bonne critique du modèle social qu'on nous vend, des modèles de genre. C'est un film à message qui touche là où ça fait mal et j'ai personnellement beaucoup aimé, je dirais peut-être même plus j'y repense, plus je me dis que c'était mon coup de cœur. Voilà, il sort en mars, si je ne me trompe pas. Donc, je vous le conseille. Allez le voir.
C'est noté.
C'est bien.
Moi, je prends des notes.
C'est bien, c'est bon élève.
C'est lui.
On a aussi vu Répertoire des villes disparues. Alors, si vous rencontrez un jour ce film, fuyez. Loin. Très loin. Film tourné en québécois de campagne profonde, heureusement que c'était sous-titré. Hein. Répertoire des villes disparues est un film, comment dire, dès les premiers plans, tu sais que l'enfer commence pour toi. Voilà, au niveau de l'histoire, on va suivre un village après le suicide d'un jeune, voilà, qui s'est suicidé en voiture. Et comment dire, qu'est-ce qui se passe? Les morts finissent par revenir, mais dans un mode un peu spécial, en mode je suis planté dans un champ et je te regarde sans rien faire. Il y a une meuf qui va entrer en lévitation, tu ne sauras jamais pourquoi. Il y a des scènes inutiles, des dialogues. C'est long, c'est chiant, c'est incompréhensible, c'est complètement inintéressant. Il doit y avoir beaucoup de symbolique, mais quelque part. Mais où? Bonne question. Donc, Répertoire des villes disparues, là, je ne vous conseille pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, le prix du public. One BR The Apartment. Alors, c'est un prix amplement mérité, je dois dire que c'est un vrai chouette film. On suit Sarah, c'est une jeune femme qui a tout quitté pour s'installer à Los Angeles. Elle se dégote un petit appartement dans une résidence où tout le monde semble gentil et accueillant. Mais malheureusement, derrière ce joli décor se cache une terrible vérité. Et la pauvre Sarah se retrouve prisonnière d'un cauchemar éveillé. Je ne vous en dis pas plus car tout est à découvrir. Il y a de la tension, il y a du mystère, il y a du sang. Bref, que de bons ingrédients. Mais passons à la comédie horrifique de cette année, Snatchers. Alors c'est l'histoire de deux adolescentes dont l'une, Sarah, se retrouve enceinte de 9 mois juste après avoir couché avec son mec. Alors de quoi elle peut être enceinte, vous allez me dire? Nos deux copines vont avoir une sacrée et monstrueuse surprise très très rapidement. Donc les deux filles vont devoir faire preuve de courage et d'inventivité pendant tout le film et c'est super drôle. On suit leurs péripéties avec intérêt et sourire aux lèvres, la salle a beaucoup ri, on a beaucoup applaudi parce qu'il y a des morts vraiment sympas. Donc voilà, Snatchers, la petite comédie horrifique de cette année, si vous avez l'occasion, allez la voir. On a aussi The Room. The Room, c'est la bonne vieille histoire du couple qui pense emménager dans sa maison de rêve et évidemment, ça tourne au cauchemar. Là, notre couple découvre une salle étonnante qui exauce tes vœux. Tu demandes ce que tu veux, ça apparaît. Mais be careful what you wish for, comme on dit. Évidemment, ça va très mal tourner. Alors, l'idée de base est très bonne, mais le film se perd un peu. Je me demande s'il n'y a pas aussi quelques trous dans le scénario. Bon, ça reste assez agréable à regarder. Ensuite, on passe à The Vigil. Alors, The Vigil, c'est une production Blumhouse et ça se voit. C'est très très classique comme réalisation de films d'horreur avec des jumpscares assez paresseux. Donc, au niveau de l'histoire, on est dans une incursion dans le folklore juif avec un héros qui doit veiller un mort toute une nuit. Je vous raconte pas la nuit pourrie qui va passer, le pauvre. Hein. Il y a finalement peu à en dire, hein. C'est un petit film d'horreur somme toute très classique. Ah, mais voilà celui qui a gagné le grand prix. Saint Maud. Il a également remporté le prix de la critique, le prix de la musique et le prix des jeunes. Et oui, une déferlante, mais vraiment bien méritée. Sainte Maude, c'est l'histoire de Maude, justement, qui est une infirmière très pieuse qui va se mettre au service d'une ancienne danseuse qui est en phase terminale. La question qu'on va se poser pendant tout le film, c'est: est-elle vraiment en connexion avec Dieu ou a-t-elle simplement les fils qui se touchent ? L'ambiance est particulièrement réussie, le film prend son temps. L'actrice Morphy Clark nous donne une interprétation magistrale. C'est vraiment du très bon et je crois qu'il sort au mois de juin. Donc si vous avez l'occasion, celui-là, courez le voir. Et enfin, le dernier film que j'ai vu, qui s'appelle Howling Village, de Takashi Shimizu, à qui l'on doit le ce fameux The Grudge. Du coup, beaucoup d'espoir placé dans ce film japonais, moi qui adore le cinéma d'horreur asiatique. Alors ça partait bien, vraiment. Et puis à un moment, je sais pas, c'est devenu, confus, paresseux, long. Tu sentais dans la salle que tout le monde avait hâte que ça se termine. Le film est tout de même reparti avec le prix du jury, mais va savoir pourquoi. Alors, il me manque à mon visionnage Blood Quantum, qui est un film de zombies en territoire amérindien, dont je n'ai pas lu que de très bonnes critiques. Voilà, en conclusion, Gérard May, 2020, c'était une bonne édition qui a fait la part belle aux réalisatrices et aux héroïnes. Des films plutôt diversifiés, même si ça versait beaucoup dans le huis clos. Un bon cru, voilà, surtout guettez la sortie de Vivarium et de Sainte Maude sur vos écrans. Et on va se quitter avec un extrait de la BO de Vivarium qui va vous rester dans la tête, qui s'appelle A Message to You, Rudy, par The Special. Maintenant, on va écouter une super interview, celle de Laurent Genefort, qui a été faite lors des Utopiales par... C'est vrai, c'est toi qui l'as faite. Ah, c'est vrai, je parle, attention, je parle sans mettre le micro à Romuald. Alors excuse-moi Romuald, reprends, dis-moi ce que tu
C'est bien moi qui ai commis cette interview, mais t'étais là.
Oui, c'est vrai, j'étais là. Oui, enfin, je suis un peu moins responsable que toi de cette super interview.
Il est génial, Laurent.
Et on l'écoute tout de suite sur le 101.5.
Tu as publié au printemps dernier Colonie, alors Colonie avec un S, et qui est un recueil de nouvelles aux éditions Le Bélial, oui. où tu abordes le sujet de la colonisation, comme son nom l'indique. Cet ouvrage fait partie de la sélection officielle du prix des Utopiales cette année. C'est un sujet que tu as déjà traité, la colonisation, et de multiples fois, et que d'autres auteurs ont traité. Qu'est-ce que tu as voulu ajouter ?
Alors en fait, ajouter, je ne sais pas trop. En fait, c'était surtout pour faire les nouvelles que j'avais fait paraître depuis plus de 20 ans n'avaient jamais été assemblées en volume. Et donc en fait, je cherchais un moyen de les assembler dans un volume. Mais je ne voyais pas la façon d'articuler ça. Et puis en fait, finalement, la logique, ça a été une logique géographique. Je me suis dit, mais en fait, il y a deux types de... Il y a les colonies planétaires et les colonies spatiales. Je l'ai, ma logique interne de recueil. Donc, c'est ça qui a présidé à ça. Et puis, il y avait aussi un roman qui s'appelait L'Humaine, que j'avais titré Colonie, sans S. Et pour moi, c'était... Le titre de ce roman-là, c'était Colonie, quoi. Dans ma tête, c'est comme ça que j'avais... Et ça racontait l'histoire d'une colonie, de son premier à son dernier habitant. C'était ça, le principe du roman. Et ça n'a pas plu à mon éditeur, en fait, comme titre. Et donc, il a trouvé L'Humaine, que j'ai trouvé tout de suite très bien. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, il a eu raison. Mais quand même, le mot colonie continuer à me hanter, en fait, parce que pour moi c'est un mot qui porte énormément d'un certain type de space opéra. Et quand j'ai voulu faire le recueil, et ben il s'est imposé, en fait. Donc là j'ai eu qu'à rajouter un S et c'était parfait.
Et colonie, ça fait appel à beaucoup de choses, hein. C'est l'imaginaire colonial, c'est l'expansion, c'est beaucoup de choses qu'on croise, qu'on voit déjà beaucoup. Mais c'est pas forcément ça que tu abordes systématiquement dans tes récits.
Dans L'Humaine, en fait, l'aspect colonial, il était peut-être presque plus frontal que dans le recueil de nouvelles. C'est-à-dire que là, on avait l'altérité. Et finalement, L'Humaine, c'est une colonisation qui échoue, qui s'établit mal. Les humains sur place vont passer à côté de la richesse de cette planète qui n'est pas les ressources, en fait. Et elle va s'étioler, elle va partir, et c'est bien fait. Dans Colonie, il n'y a pas le rapport à l'altérité. C'est des territoires vierges d'espèces intelligentes locales, plus exactement. Et donc, il n'y a pas cet aspect-là qu'il y a dans L'Humaine. Donc, on est plus dans un rapport avec la nature. Il n'y a pas de rapport avec la culture autre, il y a un rapport avec la nature autre.
Et d'ailleurs, l'altérité, en fait, c'est un thème qui revient souvent dans tes œuvres, en fait. Je pense à Au Mal ou à Point Chaud aussi, finalement. Là, on est dans le thème, les utopiales, c'est crypter, décrypter. L'altérité, est-ce que pour toi, c'est aussi ça, crypter, décrypter l'autre? Puisque souvent, tu proposes un point de vue extraterrestre dans ton récit.
Oui, c'est vrai. En fait, là, c'est... Moi, ce que je parle, c'est de communication. Mais en fait, la communication, c'est pas que de l'échange d'informations. C'est ça, en fait, un peu la clé du rapport à l'extraterrestre, finalement. L'extraterrestre en tant que thème SF, c'est que on échange, mais on n'échange pas que de l'information, on échange aussi un rapport au monde, ce qu'on existe. Et le rapport, en fait, la communication, c'est ça, c'est pas juste de parce que l'échange d'informations, on sait le faire avec des machines. Il n'y a pas besoin d'avoir un autre en face, en fait. Et l'alien, il va nous mettre en justement, il va être cette figure de l'autre qui avec lequel pour communiquer, il va falloir s'extraire de soi-même. Et la figure de l'alien, il n'y a pas mieux que ça, en fait, pour s'extraire de soi-même.
Ouais, effectivement, parce que les aliens que tu proposes sont soit très différents, soit n'ont pas de communication orale. Dans Poisson, on voit ça. Il y a d'autres formes de communication qui peuvent se créer. Moi, je me rappelle là, du lapon là, qui a une relation qui est très proche de la nature, qui est autre. On avait une héroïne aussi qui passe dans la porte de vent, et puis qui, elle, revient avec une communication qui est différente à la fin de Point Chaud.
Ouais, alors c'est marrant parce que sur le Nenet, qui appartient à une ethnie dans le détroit de Yamal, c'est des éleveurs de rennes. En fait, pour moi, alors il y a eu plein de lectures différentes. C'est assez marrant. J'ai eu des retours qui sont très différents en fait. Pour moi, ce personnage n'est pas en contact avec la nature en fait. C'est un Nenet qui a été sédentarisé, donc c'est plutôt un déraciné en réalité, et il va essayer par le truchement d'une communication avec l'alien de lui se reconnecter avec ce qu'il pense être la nature, mais qui en fait est juste une pensée animiste. Et donc pour lui, il va avoir un contact, mais que moi, je jugerais de mon point de vue occidental, tout aussi artificiel qu'un occidental va communiquer avec un alien et lui parler de technologie ou de trucs occidentaux, quoi que ça veuille dire. Mais je veux dire, l'homme existe dans son artificialité, en fait. C'est ça que ça montre, finalement, ce Nenet qui va penser que celui qu'il est en face de lui, il est aussi animiste. Mais en fait, on n'en sait rien. Et ces aliens, ce qui s'appelle les Eeti, qui sont des sortes de. Qui ressemblent un peu vaguement à des rennes. Et donc, du coup, dans son esprit, c'est quelque chose qui est plus proche de la nature, mais en réalité, il n'en sait rien. Il va communiquer par le toucher, par d'autres modes, et il va en déduire des choses. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, en fait. Je laisse la lecture des événements au lecteur, en fait. Moi, ce que je donne, c'est des sortes de faits. Et qui sont interprétés par lui, mais on peut avoir une autre interprétation en fait.
Alors toi, tu as peut-être ton interprétation, justement. Mais la communication, c'est ça, c'est finalement, c'est qu'est-ce qu'on projette aussi dans l'autre.
Et c'est exactement ça. Et c'est ce qu'il fait lui en fait. Lui, finalement, un lecteur, comment dire, qui acceptera pas comme un fait l'interprétation qu'on a. Il peut en avoir une autre en fait. Mais du coup, par ricochet, il peut, du coup, ça interroge aussi sur le rapport des Occidentaux dans le roman, que eux ont des aliens qui sont peut-être pas non plus les bons.
D'ailleurs, dans Point Chaud, il n'y a pas vraiment de. Les aliens arrivent sur la Terre un peu par hasard, et il n'y a pas vraiment d'affrontement. Il y a quelque chose d'autre qui se passe.
Il y a un peu de tout. Il y a de l'affrontement, il y a de la découverte, il y a de la cohabitation prudente. Il y a, voilà. Il y a un peu de tout. Il y a des aliens qui débarquent.
Il y a de l'entraide aussi.
Voilà, il y a de l'entraide aussi. Il y a une espèce d'alien qui débarque et puis qui sème des sortes d'objets dans leur sillage, des trucs qui s'assemblent. Et en fait, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est des aliens qui s'amusent en fait à nous mystifier? Est-ce que c'est un rituel? Voilà, est-ce que c'est un. En fait, on ne sait pas. Donc, en fait, et du coup, on peut imaginer plein de choses.
Alors, dans Omal, on a surtout trois espèces, finalement, qui vont cohabiter dans une énorme sphère de Dyson. C'est les humains, les Chiles et les Hotskins. Là, la communication, elle est peut-être moins complexe, en tout cas en apparence, que dans Point Chaud. Mais on se retrouve confronté à beaucoup de choses. Et là, par contre, on arrive sur le terrain de la guerre, sur le terrain de l'entraide technologique. Et puis, il y a une question aussi qui les rapproche tous, c'est qu'est-ce qu'ils font là ?
Oui, voilà, en fait, là, parce que autant dans Point Chaud, les aliens viennent sur Terre. Donc, il y a, d'une certaine façon, ça simplifie les choses dans le sens où on revient à la notion de territoire. Donc, on est dans une thématique de. Moi, ce que j'avais voulu faire, c'est une espèce de récit d'anti-invasion alien. Mais en tout cas, on était dans un cadre territorial, et qui sont les récits d'aliens qui viennent sur Terre. Dans Omal, et c'est l'intérêt du space opéra, c'est que ça décentre tout. Donc c'est pas sur Terre, donc dans le space opéra, tout humain est lui-même un alien. C'est ça le principe, finalement. À partir du moment où on se barre de la Terre, on est comme n'importe quel alien qui explore et qui arrive sur Terre, pour lui c'est une autre planète. Et ben voilà, nous on est on devient nous-mêmes des aliens, et j'avais vraiment voulu faire dans Obal avoir une vision la plus relativiste possible, pas cognitivement parlant, mais la plus relative possible, où les humains sont une des trois espèces, point barre. Et dans mon projet initial d'Oval, je voulais même qu'il n'y ait pas d'humains dans le premier roman, que ce soit le roman où il n'y ait que des chiles et des autres qui, mais pas encore d'humains. Et puis mon éditrice m'avait dit bon, c'est très bien, mais il faudrait qu'on en vende un peu. Tu mets quelques humains quand même. Et voilà. Mais du coup, il reste de ce reliquat de point de départ le premier chapitre où il n'y a effectivement quasiment pas d'humains. On est dans le point de vue d'un alien d'emblée, quoi.
Et tes projets pour l'avenir ?
Mes projets, alors je laisse tomber un peu le space opéra parce que j'ai quand même consacré pas mal d'années, mais j'y reviendrai de toute façon. Omal n'est pas terminé, donc je continuerai à faire des nouvelles et des romans d'Omal. Là, je quitte un peu le space opéra pour faire de l'anticipation à court terme. Et puis une uchronie qui est en cours, qui est un projet que je mitonne depuis plus d'une décennie, et où j'ai cumulé suffisamment de centaines de notes pour me dire à un moment je suis déjà submergé par les notes, il va falloir que j'écrime tout ça et que je lui donne une forme littéraire. Donc voilà, je suis dedans.
On va te laisser avec donc notre dernière question habituelle, la musique que tu veux pour finir cette interview.
Galaxy Quest.
Parce que tu as
le end title de Galaxy Quest.
Parfait. Ben, merci beaucoup Laurent, c'est toujours un plaisir de t'écouter.
Merci Laurent.
Merci à vous.
Et à très bientôt. C'était Radio Géo 101.5.
Et après cette super interview, on va passer à la chronique de Julien.
Et Julien qui va tenter de vous faire une chronique sans tousser.
Sans tousser.
Ouais. Alors, c'est mal barré, là je le sens déjà. Ubique et Torbique, chronique au stylobique. Le roman a été écrit en 1969, comme par hasard l'année du premier atterrissage américain sur la Lune. L'action inaugurale se déroule cependant en 1992, l'année du silence des agneaux. Et avouons-le, si j'ai fait ce petit rappel cinématographique, c'est uniquement parce que ça vous cause plus que les séries Julie Lescaut et Hélène et les garçons qui paraissent la même année.
C'est vrai.
Ouhou. C'est vrai, hein, ça vous embouche un coin ?
Non.
Non, pas du tout.
Un
non.
Petit.
Parce qu'en fait, là où il est visionnaire, Philippe K. Dick, c'est qu'il nous emmène sur la Lune et qu'en 1992, Endeavour permet de se sortir du crâne le crash de Challenger. Et puis après, il y a comme un retour progressif vers le passé qui conduira inexorablement les protagonistes du roman de Philip K. Dick vers 1939, une époque que le romancier américain maîtrise plus que 92. Faut dire qu'il a des visions, le gars. D'abord, il pense que les terriens civilisés sont entrés de plein pied dans un monde capitaliste où tout se monnaie, de la porte d'entrée au café dans la cuisine, où les morts riches, faut pas exagérer, peuvent intégrer un moratorium qui les tient en un semi-coma sous cryogénisation, le truc qui sera utilisé plus tard par Lucas sur Han Solo. Tout ça s'apparente à une semi-mort, donc disons un semi-enfer. Et l'enfer, c'est les autres. Dur d'être un jury. Enfin, il y a des entreprises comme celle de Glenn Runciter Associates, qui embauche une horde de mercenaires télépathes qui s'appellent entre eux des précogs, sûrement d'après précognition.
Mais comme ils ont plein de pouvoir, ils ont négligé d'apprendre des langues mortes comme le latin. Sinon, ils pourraient avoir plutôt une idée du complot qui se prépare et savoir que ubique, ça veut dire... Ça veut dire quoi, ubique en latin ?
C'est une excellente question, je l'ai su.
Ça remonte à loin, les cours de latin.
Ça remonte vraiment à loin, vos cours de latin. Ça veut dire partout.
Bon. L'ubiquité.
L'ubiquité, évidemment. Tout ce beau monde, mené par Joe Cheap, un gars endetté, donc Cheap, qui ne peut même pas rentrer chez lui se faire un café, mais qui est sympathique, se retrouve sur la Lune à la poursuite d'un individu comme eux, mais du côté obscur de la force télépathe, qui tente une intrusion psychique dans une entreprise qui mène un but top secret. Bon, et ils ont vu plein de films d'horreur, donc ils avancent en ordre groupé. Au pays des attaques terroristes à la bombe, c'est pas forcément la bonne solution. D'ailleurs, il y a un truc qui saute et le Big Boss meurt. C'est à partir de ce moment-là que tout part en vrille. Les survivants n'arrivent pas à rentrer assez vite pour permettre à Runciter d'entrer au moratorium pour continuer de mener une semi-mort aux côtés de sa femme. Surtout, ils constatent tous peu à peu des altérations de la réalité. C'est d'abord des produits périmés, voire moisis, puis des objets plus ou moins imposants qui semblent issus d'une autre époque. Enfin, eux-mêmes se sentent fatigués, las, et finissent par mourir cloîtrés et isolés. C'est le moment que choisit Joe Cheap, puisque c'est un peu le héros du roman, pour se rebeller. Il découvre que Runciter communique avec lui par des rébus. Bon, il faut penser à regarder des graffitis dans les toilettes, des PV de flics, des bombes aérosols. Alors, après avoir été de New York à la Lune, le voilà en route pour la ville de Des Moines, à bord d'un antique biplan Curtiss Wright, pour aller à la mise en bière de Runciter. C'est là qu'il découvre les pouvoirs d'Ubique, dont on nous a bassinés par des spots publicitaires en exergue de chaque chapitre. Et surtout, il découvre qu'il est victime d'une arnaque à la réalité. D'ailleurs, est-il mort ou vivant, ou est-ce qu'il existe ? Bon, c'est un peu, toi, le chat de Schrödinger, quoi, on sait pas trop. Philippe Kadic nous mène en bateau après avoir usé la navette spatiale, du biplan et l'automobile. Son bilan carbone n'est pas très bon. Mais la fin implacable interpelle à Tarte. Lire est dangereux pour la santé, ne pas dépasser la dose prescrite. Alors, ubique or not ubique, that is the question.
Wow. Merci Julien.
Voilà, bah, je découvre la littérature d'anticipation. C'était le volume 4 de
Des aventures de Julien.
C'est pas le meilleur Dick, c'est vrai.
C'est pas le meilleur
Non, non mais raconter comme ça, ubique, c'est. T'as raconté l'essentiel, hein. À part les sprays peut-être.
À part les sprays, bah ouais, non, mais les trucs d'aérosol, tout ça, enfin, c'est aujourd'hui qu'il y a des, enfin, tu sais, les sels d'aluminium, tout ça, on sait pas trop ce qu'il faut. Enfin, on n'est pas obligé de les utiliser. Voilà. Après, je vous avais proposé une petite séance ludique parce que les éditions 404, que nous connaissons tous, peut-être, 404 de l'erreur 404, m'ont envoyé du matériel Space Invaders et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de Space Invaders. Jean-Hugues, tu connais Space Invaders?
Bien sûr, bah, j'ai joué à Space Invaders quand j'étais petit. Ça fait partie des jeux de console dont je parlais dans ma chronique d'ailleurs.
Et donc si je te donne une carte à gratter qui n'est pas du poil.
Mais une carte à gratter, tu la grattes et qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, on
va le découvrir.
C'est la grande question, sous vos yeux ébahis, vive la télévision.
Ah bah ça, c'est les joies de la radio.
Alors attention, là, Jean-Luc est en train de gratter.
Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est des espèces d'invaders de
trois corps différents. Je dépasse pas, en fait, il faut surtout pas dépasser. Qu'est-ce qui se passe quand on dépasse ? Il se passe rien, d'accord. En fait, ça, c'est du coloriage. Ça permet de remplir les jolies extraterrestres de couleur. Le mien, j'ai choisi rose.
Et c'est Romuald, je pense que je pourrais te donner un high score parce que okay. Je vois le high score.
J'ai pas de crayon.
Tiens, je te passe ça parce que je pense que je vais arrêter après mon premier.
Ben, c'était plutôt urbain ou rural?
Regarde,
je les
comme
cache,
c'est
bon.
Et je le montre
campagne,
parce qu'on est quand même
plutôt campagne.
C'est un très joli truc. Moche rose.
Pour chez toi, tu l'encadreras.
Waouh, merci.
Si Patrice avait été là, on lui aurait donné une navette spatiale.
Ah ben oui. Faut que tu l'y gardes avec son Tomb Raider.
Le artbook Tomb Raider.
Ah bah bien sûr.
Bah oui, non, mais je lui avais dit de venir hein, pour qu'il aurait eu des
cadeaux. S'il savait qu'il y avait plein de cadeaux.
C'est dommage, on va le brûler. C'est
alors, il faut dire quand même que les éditions 404 sont des éditions qui ont été créées pour les geeks. Il y a eu plein de petits trucs qui ont été faits, notamment pour la série Doctor Who.
C'est pas un vaisseau, c'est un canon pour tirer sur les aliens qui descendent.
Je connais rien, Rosie.
Comme vous voyez, ça peut prêter à discussion.
Ah bah il y a débat. Ouais, est-ce un vaisseau, est-ce un canon, là c'est...
Je pense qu'il y a débat. Est-ce
vous
que
aussi
Romuald...
réagissez au 02 42 24 60.
Oui, est-ce que Romuald, tu peux nous parler un peu plus de ce bouquin que tu as sous tes paluches?
Et ben, c'est toujours Space Invaders aux éditions 404, et là c'est la déco à créer soi-même. Alors c'est un bouquin épais avec des patrons à découper, enfin prédécouper, avec des numéros partout. J'ai regardé au départ, ça tient sur une page d'explication de comment créer ces Space Invaders. Alors en fait c'est quatre monstres, hein, qui sont en 3D. Quand ils sont montés, il y a le bleu, le vert, le jaune, le rose. Alors il y a une page d'explication de comment monter, c'est super simple. Moi j'ai l'impression que c'est hyper compliqué parce que je suis nul à ce genre de choses.
Il y a des chiffres jusqu'à 27 aussi.
Il y a des 56. Je pense que vu le nombre de choses qu'il y a à monter avant d'avoir son premier Space Invader, ça tient un petit peu comme du puzzle. Un petit peu
mais c'est un puzzle
plus
en 3D,
facile.
On peut en faire un mobile pour les enfants ou...
Le plus récemment que j'ai vu ça, c'était les emblèmes de GOT, de Game of Thrones, mm-hmm. qui étaient aussi
énormes. Comme des têtes coupées.
Et voilà, et donc je pense que ça aussi, on peut l'offrir à Patrice, ouais. parce que lui, il les avait montées.
Surtout, c'est sa génération, il faut bien le dire.
Et c'est un bouquin, c'est un bouquin de 30 pages sans texte.
C'est un reportage sur
sa jeunesse. Qui peut t'occuper quand même pendant plusieurs dizaines d'heures, je pense.
Ah, d'où Patrice, le bouquin sans texte. Dans le même genre, donc il y en a un sur la série Doctor Who, avec notamment une cabine téléphonique à l'ancienne en 3D. Le docteur Doctor Who,
bravo.
Qui ça je crois que sur ces bonnes paroles, on peut donner la parole à Romuald, puisque ça doit être l'heure de ta petite chronique.
Bon, non,
ça va être à toi. On envoie le générique.
Ce soir, j'apporte une petite touche personnelle à ma chronique, puisque je passerai sur les détails, mais sachez que les hasards de la vie font que j'ai de la famille canadienne et américaine, et j'ai un cousin qui habite en Floride. Ce cousin a des enfants, dont une fille, ma petite cousine, donc, hein, si vous suivez bien, Felicia Spencer, à propos de laquelle je vais dire quelques mots. Alors, Felicia est une jeune femme comme tant d'autres, si ce n'est qu'elle est ceinture noire à la fois de jiu-jitsu brésilien et de taekwondo, et accessoirement, elle a pratiqué le kickboxing. Si j'étais baisse, je dirais que Felicia, elle pèse dans le game.
Oui.
Alors, c'est naturellement que Felicia est devenue une combattante MMA, ce sport qui mélange tous les arts martiaux, dans la plus importante et médiatisée ligue du monde, l'UFC, qui veut dire Ultimate Fighting Championship. Pierre-Marie, je pense à toi. C'est spectaculaire, le MMA, hein. Et puis c'est violent. Quand on voit dans quel état finissent certains combattants, je me dis que Felicia a beaucoup de chance d'avoir conservé son beau sourire et son visage d'ange. D'ailleurs, avec ce sourire ravageur et ses talents martiaux, je me suis demandé pourquoi Hollywood ne lui avait pas encore fait les yeux doux. Bah oui, et puis en plus, ça serait pas la première. Aux États-Unis, beaucoup d'acteurs nous viennent du sport professionnel. La plupart, il est vrai, pour leur imposant physique plutôt que pour leur talent d'acting.
J'attends qu'ils me contactent.
Voilà. Jetez un œil rapide à la série des trois films Expendables, sortis entre 2010 et 2014. Une débauche d'acteurs cultes, et plus ou moins frais d'ailleurs, du cinéma d'action des années 80, voire 90, parmi lesquels Arnold Schwarzenegger, ancien culturiste, Jason Statham, ancien membre de l'équipe de plongeon de Grande-Bretagne, Jet Li, quintuple champion chinois de Wushu. Alors c'est de la boxe et machin, enfin, des trucs très spéciaux.
Vous voyez pas, mais Romuald fait les gestes de tous les sports qu'il évoque.
Je suis en sueur.
Il a imité le plongeon, c'était très beau.
Ouais. Pour Dolph Lundgren, c'est le méchant d'ailleurs boxeur russe de Rocky IV, et ben lui c'était le karaté au niveau international. Terry Crews, le football américain. J'en oublie volontairement quelques-uns, sinon on en a pour la soirée. Pour finir avec Randy Couture, adepte de la gréco-romaine et ancien champion de MMA. Le MMA, quoi qu'on puisse penser de ce sport, on ne peut lui contester son caractère populaire et spectaculaire. D'ailleurs, en anglais, son pratiquant est appelé mixed martial artist. Hein, c'est pas pour rien. En cela, le MMA se trouve héritier en droite ligne de la boxe, sport autrefois très populaire, mais aussi et surtout du catch. Alors, le catch naît dans la deuxième partie du 19e siècle sur les champs de foire et prospère grâce à l'engouement populaire de l'époque pour la lutte. Le catch est alors appelé lutte foraine. C'est très répandu en France. Les promoteurs du catch ont décidé très tôt d'insuffler une composante spectaculaire dans les combats. Et en parallèle, le catch se développe comme un art du spectacle aussi aux États-Unis. Des catcheurs devenus acteurs, on pense au français André Le Géant, qui joua dans Princess Bride en 1987, à David Bautista, connu pour son rôle de Drax Destructeur dans la franchise Marvel, et puis aussi un petit rôle de réplicant dans le Blade Runner de 2049 de Denis Villeneuve, c'était en 2016, il me semble, 2017, ou encore à Hulk Hogan, adversaire de Sylvester Stallone au début de Rocky III. Hulk Hogan, qui sera le héros de l'inénarrable nanar qu'est Suburban Commando, ou entre Retour vers le futur 3 et la famille Adams, c'était lamentablement perdu Christopher Lloyd. Vous savez, le doc. Mais c'est le Mexique qui a porté à l'écran la première star en provenance du catch, plus précisément de la lucha libre et de ses combattants qui portent le masque. Le catcheur Rodolfo Guzman, alias El Santo, a le premier franchi d'un bond la barrière entre catch et cinéma. Après une carrière sportive débutée avant-guerre, El Santo devient un personnage de bande dessinée pour ensuite incarner son propre personnage au cinéma à partir de 1958, avec plus de 50 films à son actif. Le technico, c'est-à-dire le gentil catcheur à l'opposé des méchants rudos, aura combattu entre autres des nazis, des zombies, des momies et des femmes vampires. J'ai pas pu faire la rime. Notez que comme Felicia Spencer, El Santo avait appris le jiu-jitsu. C'est en hommage à El Santo et plus largement à la lucha libre que l'auteur angevin Julien Elbrook a consacré deux fascicules, vous savez, ce format de petit roman, deux fascicules mettant en scène le luchador masqué, pléonasme, parce que tous les luchadors sont masqués, le luchador masqué Green Tiburon, ou Tiburon peut-être, moi je ne sais pas très espagnol.
Green Tiburon.
Green Tiburon, qui lutte contre des forces maléfiques. Avec un peu de chance, vous pourriez encore en trouver quelques exemplaires aux fabuleuses éditions du Le Carnoplaste.
Du Le Carnoplast.
Oui, il paraît qu'on dit ça. Je crois que c'est même Robert Darvel qui m'a dit qu'on disait comme ça.
Aux éditions du Le Seuil.
La lucha libre.
On dit Seuil.
La lucha libre aussi dans la série de comics français Muta Fukaz chez Ankama Édition du dessinateur Ron. Dans cette BD. Non, il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a rien. Dans cette BD au cœur de Dark Mid City, une sorte de ville jumelle et cauchemardisée de Los Angeles, les luchadores interviennent lorsque le monde a besoin d'eux. On pense aussi à la série de BD Lucha Libre aux humanoïdes associés, ses albums publiés entre 2006 et 2010, avec le belge Jerry Friessen au scénario, scénariste aussi de la série comico-horrifique Les zombies qui ont mangé le monde. Après une série de 7 victoires chez les professionnels, Felicia Spencer a perdu pour la première fois en juillet dernier. Son adversaire, l'ancienne championne en titre, Christiane Justino, plus connue sous le nom d'artiste de Chris Cyborg. Cyborg, comme le titre du film avec un certain Jean-Claude Van Damme dans la peau d'un homme qui est sans doute un cyborg, mais non, mais si, mais on ne sait pas trop en fait. Jean-Claude, rappelons-le, ancien champion de karaté est devenu acteur, plus lui aussi grâce à ses prouesses physiques qu'à son jeu d'acteur, du moins à l'époque. Un homme ou cyborg, ceci 3 ans avant le fameux Universal Soldier, où là, mon acteur belge préféré avant François Damiens, revenait à la vie telle une créature de Frankenstein bodybuildée. Dans Universal Soldier, le méchant est incarné par Dolph Lundgren, qui est le méchant russe de Rocky IV, je viens de le dire à 3 minutes.
Oui, oui, oui.
J'ai noté les noms de ceux qui ne suivent pas.
On est 100 fois.
Bref.
Il est dans Expendables aussi.
Voilà. Alors. Bref, j'espère que des producteurs repéreront très vite Felicia. Espérance pas si folle, puisque l'une de ses collègues, Gina Carano, a hérité du rôle d'Angel Dust dans le premier film Deadpool. Vous savez, c'est la fille qui a les cheveux un petit peu à la Brambrosse et qui est super forte quand elle se met en colère. Et qui a une barre là qui est sur le front. Et plus récemment, Gina Carano a hérité aussi du rôle de Cara Dune of Alderaan dans la série The Mandalorian. D'ailleurs, Gina Carano, comme Felicia Spencer, a engrangé 7 victoires consécutives avant de tomber face à Chris Cyborg. Coïncidence ? Je ne crois pas.
Complot.
Mais ne brûlons pas les étapes. Pour le moment, je souhaite le meilleur à Felicia Spencer, qui va affronter le 29 février prochain, à Norfolk, en Virginie, la Française Zara Fern dos Santos, largement à sa portée. En attendant, découvrez l'œuvre épatante de la photographe mexicaine Lourdes Grobet, qui a tiré le portrait pendant 30 ans des luchadors. Visionnez l'intéressant film d'animation Mutafukaz, sorti en 2018 et puis passé récemment sur OCS. Et surtout, si vous avez des enfants, jetez-vous sur les 3 albums de BD Rulio Biscotto de Tony Emerio, que l'on connaît bien ici. Série en cours, c'est aux éditions Monsieur Popcorn. Parce qu'un punch de culture populaire en pleine poire, eh ben, c'est certainement pas dangereux pour le cerveau.
Wow! Felicia Spencer! Into the UFC in a big way!
Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Cause I had the time of my life, and I owe.
So long now, I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy.
Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise secretly. So we take each other's hand, cause we seem to understand the urgency. Just remember,
you're the one thing
I can't keep up.
So I'll tell you something.
This could be love.
J'adore.
Et voilà, la demande générale, et ben on squeeze Dirty Dancing. Mais c'est pour une bonne cause, c'est pour vous faire l'agenda en express. Alors, pour vous dire qu'il y a 2 expos et un festival qui sont intéressants à voir en ce moment. Il y a l'expo Candice Roger qui est au bar Le Garage. Donc, on vous conseille d'aller la voir, voir le travail de Candice Roger qui est vraiment très intéressant.
On vous conseille pas, on vous oblige à aller la voir.
On a des actions chez Candice Roger. Il y a aussi l'exposition Eshi à l'ABM qu'on accueillera d'ailleurs dans la prochaine émission. Donc si vous voulez aller voir un peu ce qu'ils font, ce qu'ils font, et puis après l'écouter quand il sera chez nous la prochaine fois. Et enfin, n'oubliez pas le festival BD à Chalonne le 29 février et le 1er mars. Et donc, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Et on écoute et
bravo
ensuite
à Bess pour cette animation.
Ouais,
bravo
à Julien. Bravo.
Oui, enfin, moi, j'ai c'était pas fait grand-chose, du coup.
Et à Luc.